VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour le monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du vendredi 1er décembre 2023. Coup de feu en Guinée-Bissau, l'état-major dit contrôler la situation après une nuit de combat. À Madagascar, la réélection du président sortant André Rajoelina validée. La République centrafricaine célèbre aujourd'hui l'anniversaire de son indépendance. La course des pirogues, parrainée partiellement par la VOA, a constitué l'un des reliefs dans les manifestations. Nous retrouverons dans la partie magazine l'un de nos envoyés spéciaux, Félix Yepassi Zembrou. La guerre reprend à Gaza après l'expiration de la trêve. À la COP28, les négociations butent déjà sur la question des énergies fossiles. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. L'armée bissau-guinéenne dit contrôler la situation dans la capitale après avoir eu des combats avec d'autres éléments des forces de sécurité. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
Des tirs nourris par intermittence ont retenti une partie de la nuit et ce matin à Bissau entre les éléments de la garde nationale retranchés dans une caserne du sud de la ville et les forces spéciales de la garde présidentielle. Le calme est revenu avec la capture ou la reddition du commandant de la garde nationale, le colonel Victor Tchongo, annoncé par l'armée. La protection a été renforcée auprès des bâtiments officiels, aux abords de la présidence, l'état-major et la police judiciaire. Selon des responsables de l'armée et du renseignement, les éléments de la garde nationale ont fait irruption hier soir dans les locaux de la police judiciaire pour en extraire le ministre de l'économie et des finances, Souleymane Seydi, et le secrétaire d'état au trésor public, Antonio Montero. Puis ils se sont mis à l'abri dans un camp résistant par les armes à l'armée. Les deux membres du gouvernement ont été récupérés sains et saufs, selon un responsable militaire. Ils avaient été convoqués hier par la justice, puis placés en garde à vue, après avoir été interrogés sur le retrait de 10 millions de dollars des caisses de l'État. M. Seydi a affirmé lundi à l'Assemblée nationale que ce retrait est légal et destiné à soutenir le secteur privé. Ce nouveau coup de chaud est survenu alors que le président Oumarou Sissoko Embalo se trouve à Dubaï pour assister à la 28e conférence des Nations Unies sur le climat.
La radio de la mission de l'ONU au Mali, Mikado FM, a cessé d'émettre à minuit dans la nuit de jeudi à vendredi, après 8 années où elle a contribué à favoriser la paix, selon sa coordinatrice. Cette fermeture s'inscrit dans le cadre du départ avant le 31 décembre de la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, déployée depuis 2013 dans ce pays en proie au djihadisme et à une profonde crise multidimensionnelle et poussée vers la sortie par les militaires arrivés au pouvoir par la force en 2020. Deux journalistes togolais poursuivis et écroués à Lomé depuis le 15 novembre pour diffamation envers un ministre ont été remis en liberté aujourd'hui, a indiqué le rédacteur en chef du journal Flambeau des démocrates, Loïc Lawson, directeur de publication de ce même journal, et Anani Sossou, journaliste indépendant, a été inculpé et écroué après avoir affirmé sur les réseaux sociaux que le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière, Kodjo Adzedze, s'est fait voler 400 millions de francs CFA à son domicile. Soudan du Sud, au moins 594 civils ont été tués et 290 autres blessés entre août et décembre 2022 dans des affrontements entre milices armées dans le nord-ouest du Soudan, a déploré aujourd'hui l'ONU, exhortant les autorités à poursuivre les responsables. La mission de l'ONU au Soudan du Sud a affirmé à l'issue de cette enquête avoir identifié au moins 22 responsables. Plus jeune pays du monde, le Soudan du Sud est en proie à des violences à caractère politico-ethnique et à une instabilité chronique depuis son indépendance du Soudan du Sud en 2011. La haute cour constitutionnelle de Madagascar déclare le président sortant, André Rajoelina, vainqueur des élections du mois dernier. La cour lui confère ainsi un troisième mandat après avoir rejeté les recours de l'opposition qui dénonçait de nombreuses irrégularités. Alexandrine Oloignon.
André Rajoelina est élu président de la République de Madagascar et prend ses fonctions dès la prestation de serment, a déclaré le président de la haute cour constitutionnelle. Mes premières heures seront de m'occuper du peuple, c'est ma mission principale, a affirmé de son côté Rajoelina à la presse après l'annonce des résultats définitifs, en citant parmi ses priorités être au chevet des plus démunis, accélérer l'industrialisation et former les malgaches pour que chaque citoyen puisse être utile au pays. La plus haute juridiction de l'île a également rejeté plusieurs recours de l'opposition, réclamant notamment l'annulation du scrutin. 11 des 12 candidats de l'opposition ont déjà indiqué qu'ils ne reconnaîtraient pas les résultats. Il faut respecter le choix du peuple. Je suis preneur de toutes les critiques, mais de celles qui vont dans le sens de la construction et non de la destruction du pays, a prévenu Andre Rajoel. La cérémonie d'investiture est prévue à la mi-décembre.
Après ce verdict de la Haute Cour, l'Union européenne et les États-Unis ont lancé aujourd'hui un appel à Andre Rajoel pour qu'il apaise les tensions politiques sur la Grande Île suite à la confirmation de sa victoire à l'élection présidentielle. En RDC, les candidats à la présidentielle sillonnent l'est du pays en proie à une violence ininterrompue. Le riche homme d'affaires et candidat de l'opposition Moïse Katumbi, l'un des 23 candidats à la présidence, a été le premier à se rendre à Goma, la principale ville de la province du Nord Kivu. Le gynécologue Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix, a lancé lui sa campagne dimanche dans sa ville natale de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Martin Fayulu, qui continue d'affirmer que la victoire lui a été injustement refusée lors de la précédente élection en 2018, s'est de nouveau lancé dans la campagne en commençant par la province orientale. Depuis près de 30 ans, les villes de Bunia, Bukavu, Butembo, Beni, Oicha et Goma, qui s'étendent sur trois provinces instables de la RDC.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La trêve dans la bande de Gaza a expiré aujourd'hui. L'armée israélienne a repris raid aérien et tir d'artillerie. Les combattants du Hamas recommencent eux aussi à tirer des roquettes vers l'État hébreu. Israël a su avoir frappé plus de 200 cibles terroristes dans la bande de Gaza depuis la fin de la trêve. Dilidico.
Israël et le Hamas s'accusent mutuellement d'avoir fait échouer les négociations pour une prolongation de la trêve, s'opposant sur la question des otages devant être libérés et la remise de corps d'otages présumés morts dans les frappes israéliennes. Depuis l'accord du 24 novembre sur la trêve qui s'est finalement fracassé ce matin, Israël et le mouvement islamiste Hamas échangeaient quotidiennement des otages israéliens contre des prisonniers palestiniens. Sur les quelques 240 personnes enlevées lors de l'attaque du 7 octobre et emmenées dans la bande de Gaza, 137 y sont toujours retenues selon le gouvernement israélien. Le Qatar, principal médiateur entre Israël et le Hamas, a exhorté la communauté internationale à agir rapidement pour mettre fin à la violence après la reprise des bombardements israéliens dans la bande de Gaza. De leur côté, les États-Unis ont annoncé qu'ils se préparent à imposer des restrictions de visa à des colons israéliens impliqués dans les violences contre des Palestiniens en Cisjordanie occupée, selon un haut responsable du département d'État s'exprimant sous couvert d'anonymat.
Les autorités libyennes ont libéré aujourd'hui 4 membres du Hamas, incarcérés depuis 2016 et qui purgeaient de lourdes peines de prison, notamment pour trafic d'armes au profit du mouvement au pouvoir dans la bande de Gaza. Les 4 hommes avaient été arrêtés à Tripoli en octobre 2016. Leur arrestation avait été rendue publique quelques mois plus tard par le parquet libyen. Leur libération ce jour a été rapportée par plusieurs médias libyens qui ont précisé qu'elle a eu lieu sur ordre du parquet à la suite d'une médiation menée par la Turquie. Plus de 140 dirigeants mondiaux sont réunis ce vendredi à Dubaï pour la COP28, dont l'objectif est de contribuer à résoudre la crise climatique, mais le tournant appelé de ses vœux par le roi Charles est loin d'être acquis. Mohamed Oumfa.
Les uns après les autres, présidents et monarques ont pris acte du climat extrême qui est en train de conquérir la Terre et de l'apathie collective face au réchauffement. La plupart se sont contentés de répéter leurs engagements existants sur le climat, dont presque aucun n'est en ligne avec l'accord de Paris, sans que les opposants à une sortie des énergies fossiles n'annoncent de volte-face. Le premier ministre Narendra Modi, rappelant que l'Inde représentait 17% de la population de la planète pour 4% des émissions mondiales, s'est ainsi lancé dans un plaidoyer des efforts de son pays, un modèle pour le monde, dans l'équilibre trouvé entre écologie et économie. Invité d'honneur des Émirats arabes unis, le roi Charles III avait appelé en ouverture à faire de cette 28e conférence un tournant digne de l'accord de Paris. La Terre en a ras-le-bol des accords sur le climat qui ne sont pas respectés, a dit à sa suite le président brésilien Lula da Silva,
qui accueillera la COP 30 dans 2 ans. La science est claire, la limite de 1,5 degré Celsius est tenable uniquement si nous finissons par arrêter de brûler tous les combustibles fossiles, a lancé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. La combustion croissante depuis le 19e siècle amène le monde vers un réchauffement invivable de près de 3 degrés Celsius d'ici 2100.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé aujourd'hui la candidature de la Turquie pour accueillir la conférence internationale pour le climat COP31 en 2026. Et puis le Congrès américain a destitué aujourd'hui le républicain George Santos, un élu qui s'est illustré par ses mensonges répétés et accusé de délits financiers. La Chambre des représentants n'a utilisé une telle sanction que 5 fois dans son histoire. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Le Togo accueille cette semaine à Lomé la 37e session du Conseil du cadre intégré renforcé pour discuter de la mise en œuvre de projets commerciaux dans les pays les moins avancés, notamment dans les filières telles que le soja, le karité et l'anacarde. La ministre du Développement à la base et de l'emploi des jeunes, Myriam Dossou d'Almeida, a jugé essentielle l'approbation de projets sur la compétitivité des produits togolais comme le sésame, la tomate et le manioc. Le groupe NGS a finalisé l'acquisition des actions Yara Cameroun auprès de Yara International. Il devient ainsi l'actionnaire unique de la société sous l'identité Hydrochem Cameroun, connue pour sa mise en œuvre de pratiques agricoles durables dans la zone CEMAC. Le groupe souhaite élargir ses activités. Un accord de distribution exclusive d'engrais de qualité a été conclu entre les deux compagnies. La Banque africaine de développement compte mobiliser des financements pour l'action climatique à la COP28 qui se tient à Dubaï. La BAD souhaite mobiliser des ressources pour favoriser la résilience et le développement durable en Afrique. Elle se joindra à ses partenaires pour lancer le consortium mondial pour les systèmes de stockage d'énergie par batterie et consolidera les engagements financiers pour l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique de 10 milliards de dollars.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Rouget, bonsoir à tous.
Le Mali arrache le bronze à la Coupe du Monde des moins de 17 ans en Indonésie.
Oui, les jeunes maliens ont remporté le match de classement dominant l'Argentine 3-0. Ibrahim Diarra a ouvert le score pour le Mali à la 9e minute. Mamadou Doumbia a doublé la mise à la 45e, juste avant la mi-temps. À la reprise, il récidive dès la 48e pour mettre les Maliens définitivement à l'abri. La finale va se disputer demain entre la France et l'Allemagne.
La deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des champions CAF a démarré aujourd'hui.
Al-Hilal Omdurman du Soudan fait face à l'Espérance de Tunis. Les Ghanéens de Madiyama DC affrontent le CR Belouizdad au Baba Yara Stadium. Cette deuxième journée va se poursuivre demain après sa victoire d'entrée le week-end dernier. Le club sud-africain de Mamelodi Sundowns se déplace sur le terrain du tout-puissant Mazembe. Les Égyptiens d'Al Ahly se rendent en Tanzanie pour y affronter les Young Africans. À suivre aussi, Johannesburg Galaxy FC, SC Simba. Les Mauritaniens de Noah Dibou font face aux Égyptiens de Pyramide. L'Étoile sportive du Sahel joue contre l'Atlético Petro et les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa accueillent les Marocains du Wydad au stade Félix Houphouët-Boigny.
Toujours sur le continent, les matchs qualificatifs à la prochaine CAN féminine Maroc 2024 se poursuivent.
De nombreuses équipes ont fait des pas vers la qualification. La Tanzanie a battu le Togo 3-0. La Tunisie a étrié le Congo 5-2 pendant que le Nigeria a dominé le Cap-Vert 5-0. Match nul d'un but partout entre le Burkina Faso et l'Afrique du Sud. Le Burundi a coulé devant l'Algérie, vainqueur 5-1, 7-2 pour le Mali dans son duel ouest-africain contre la Guinée, 4-0 pour le Sénégal face à l'Égypte.
Ici en NBA, San Antonio subit son 13e revers d'affilée.
Ils y ont cru, mais après avoir longtemps mené, les San Antonio Spurs du rookie français Victor Wembanyama ont de nouveau perdu pour la 13e fois consécutive, cette fois-ci face à Atlanta 137-135. De son côté, Milwaukee a perdu après prolongation à Chicago 120-113 et reste troisième de la conférence Est. Dans un match hyper offensif, Indiana a subi la loi du Miami Heat 142-132. Minnesota a lui conforté sa place de leader de la conférence Ouest en s'imposant devant le Utah Jazz 101-90 avec 32 points et 11 rebonds de Karl Anthony Towns.
Page des sports VOA Afrique signée Yacouba Ouédraogo. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Bangui, la capitale centrafricaine, s'est parée aujourd'hui de ses plus beaux habits pour les festivités du 65e anniversaire de l'indépendance du pays. L'un des événements marquants aujourd'hui fut la course des pirogues, partiellement parrainée par la VOA. Nous retrouvons justement dans la capitale centrafricaine Félix Yepassi Zembrou, l'un de nos envoyés spéciaux sur place. Bonsoir Félix.
Bonsoir Jean-Roger.
Alors la République centrafricaine a 65 ans, comment les autorités ont marqué l'événement aujourd'hui?
Oui, bon, d'abord Jean-Roger Billon, le 65e anniversaire de la proclamation de la République centrafricaine a été marqué ce matin par un grandiose défilé civil et militaire sur l'imposante avenue des Martyrs dans la capitale centrafricaine, Bangui, comme vous l'avez dit. Le chef de l'État, Faustin Akanji Touadéra, a honoré de sa présence l'événement qui a rassemblé de nombreux Banguissois et Banguissoises. Il faut dire que cette fête du 1er décembre revêt un caractère particulier, car c'est la toute première célébration de la 7e République au lendemain de la nouvelle Constitution soumise à référendum le 30 juillet dernier. C'est aussi l'occasion pour tous les Centrafricains, hommes, femmes et enfants, de se réconcilier entre eux après la longue période de crise marquée par les guerres. C'est donc dans la joie, dans la liesse populaire, que les hommes, femmes et enfants représentant différentes entreprises ont défilé ce matin. Le défilé militaire a été aussi l'occasion de démontrer que la sécurité est revenue grâce aux armements qui ont été montrés et que les populations maintenant peuvent faire confiance en leurs forces armées. Jean-Roger Billon.
Alors, la Voix de l'Amérique a partiellement parrainé la course des pirogues. Nous savons que la course mobilise d'habitude les Centrafricains. Comment s'est déroulée l'édition 2023?
Oui, c'est exact, Jean-Roger Billon. Donc, après le défilé civil et militaire ce matin sur l'avenue des Martyrs, la traditionnelle course de pirogues a été, disons, on ne peut plus le clou des festivités du 1er décembre, avec cette particularité que VOA a été le sponsor officiel en partenariat avec la mairie de Bangui. Il faut dire que la course de pirogues est un événement de portée nationale qui est célébré une fois l'an, et qui donne à chaque et qui draine à chaque occasion des foules sur les rives de Lubangui. Cette année, une vingtaine de pirogues représentant des villages étaient en compétition. Le premier prix d'une valeur de 1 500 000 francs CFA offert par Orange a été remis par le président de la République, tandis que les deuxième et troisième prix et que le président de l'Assemblée nationale a remis, ainsi que le Premier ministre Félix Oumanoua, les deux ont remis les deuxièmes prix qui ont été offerts par VOA Afrique. Les filles d'accueil ainsi que certains piroguiers étaient tous habillés en t-shirts et casquettes de VOA. Et on pourrait même noter devant la tribune officielle montée à cette occasion une énorme banderole portant le logo de VOA, la Voix de l'Amérique.
Merci à vous Félix. C'était donc Félix Yepassi Zembrou, envoyé spécial à Bangui, en République centrafricaine, dans le cadre des festivités marquant le 65e anniversaire de ce pays.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
L'Afrique du Sud reste le pays qui compte le plus de personnes infectées par le VIH. D'énormes progrès ont pourtant été faits en matière de traitement ces dernières années, mais le principal problème demeure la prévention. Cette semaine, une société sud-africaine vient d'annoncer qu'elle va se lancer dans la production d'anneaux vaginaux qui diffusent des antirétroviraux. Patricia Huon, notre correspondante en Afrique du Sud, nous en dit plus.
C'est une forme de traitement préventif contre le VIH. Il s'agit d'un anneau en silicone introduit dans le vagin et changé mensuellement qui libère lentement de la dapivirine, un médicament antirétroviral. Une option qui peut être préférée aux autres traitements de prévention qui consistent à avaler une pilule tous les jours ou à recevoir une piqûre tous les mois. C'est donc une avancée majeure pour l'Afrique du Sud qui compte près de 8 millions de personnes séropositives et où le taux de nouvelles contaminations est particulièrement élevé parmi les jeunes femmes. Linda Gelbaker, directrice de la Fondation Desmond Tutu pour le VIH.
The vaginal ring is an option.
Cet anneau vaginal est une option pour les femmes qui, quelle que soit la raison, ne peuvent pas prendre une pilule et cherchent une solution à plus long terme. Il y a aussi très peu d'effets secondaires. C'est important parce que d'autres technologies similaires à objectifs multiples sont en cours d'élaboration. Des anneaux qui pourront à la fois servir de contraceptif, prévenir le VIH et d'autres maladies sexuellement transmissibles.
Une solution discrète qui offre aux femmes le moyen d'être autonomes pour se protéger plus efficacement sans besoin d'obtenir l'accord de leur partenaire. Sinanthlant Lagogela, activiste pour la prévention du VIH en Afrique.
Nous vivons dans un monde où les hommes dominent les relations sexuelles. Cela veut dire que dans les situations où les femmes ont des difficultés à prendre l'initiative de l'utilisation du préservatif avec leur partenaire, cet anneau est utile. Le partenaire ne le sent pas, il n'a pas besoin de savoir. Cela permet de ne pas prendre de risques, d'avoir une tranquillité d'esprit et cela permet de choisir. C'est un anneau pour les femmes qui a été conçu par des femmes. Cela veut dire qu'elles ont pris en compte cet aspect. Il n'y a pas besoin d'aller à la clinique tout le temps, cela peut s'utiliser chez soi.
Ces anneaux sont pour le moment produits par une société suédoise et distribués dans plusieurs pays africains. À terme, le laboratoire Cara Health, basé à Johannesburg, espère en produire 1 million par an. Cela devrait permettre aux femmes sud-africaines d'y avoir plus facilement accès et à moindre coût. À Johannesburg, Patricia Huon pour VOA Afrique.
Le président Joe Biden a reçu il y a quelques jours son homologue de l'Angola. Les deux dirigeants ont discuté d'un projet de développement ferroviaire financé par les États-Unis à hauteur d'$1 milliard qui vise à relier aux zones intérieures les ports de ce pays riche en pétrole et à desserrer ainsi l'emprise de la Chine sur le continent. Mais en tant que principal envoyé de paix de l'Union africaine, le président João Lourenço devra apaiser l'instabilité en République démocratique du Congo. Le reportage d'Anita Powell, repris par Alexandre Nolognon.
Joe Biden a accueilli chaleureusement le président angolais João Lourenço et lui a fait part de ses grands projets alors qu'il le recevait pour la première fois. Le chef d'État américain a présenté cette rare visite d'un dirigeant africain dans le bureau ovale comme un exemple de sa stratégie africaine remaniée.
Comme je l'ai déjà dit, l'Amérique s'intéresse de près à l'Afrique.
Leur réunion de jeudi, qui a duré 1 heure, a principalement porté sur un corridor ferroviaire financé par les États-Unis qui s'étend de la côte angolaise, riche en pétrole, jusqu'à l'intérieur de l'Afrique, où la Chine et les États-Unis sont en concurrence pour l'accès aux ressources. Il traverse le sud du Congo, instable et riche en minerais rares, et s'enfonce dans la Zambie, riche en cuivre. Les deux parties ont également convenu d'organiser en 2024 un dialogue axé sur la sécurité et la stabilité de l'approvisionnement en énergie. Les États-Unis ont déjà eu des entretiens similaires avec le géant pétrolier nigérien. Le président João Lourenço a salué l'initiative.
L'engagement des États-Unis dans le corridor de Lobito en matière de télécommunications et d'énergie, principalement d'énergie verte, est une preuve de ce soutien, car les infrastructures comme celle-ci contribueront au développement non seulement de l'Angola, mais aussi de l'ensemble du continent africain.
La VOA a demandé à la Maison-Blanche comment ce corridor pouvait fonctionner sans la paix au Congo, qui fait partie du travail de João Lourenço en tant que principal envoyé de paix de l'Union africaine.
Le porte-parole du Conseil national de sécurité, John Kirby, n'a pas précisé les mesures prises par l'administration pour soutenir les efforts de M. Lourenço dans cette région troublée, où les choses sont encore compliquées par la présence de quelques dirigeants de longue date, dotés d'une forte personnalité, par des violations bien documentées des droits de l'homme, des libertés civiles et des pratiques démocratiques, et par un passé d'ingérence dans les affaires des uns et des autres. Il a mentionné le plan d'infrastructure et d'investissement de M. Biden dans la région, le PGI. John Kirby est directeur de la communication stratégique du Conseil national de sécurité.
Le président est très enthousiaste à ce sujet. Il s'agit d'un effort historique dans le cadre du PGI qui vise à aider les pays à revenus moyens inférieurs à trouver des investissements durables dans leur infrastructure qui peuvent non seulement créer des emplois, mais aussi ouvrir des perspectives économiques dans ce cas dans toute la partie méridionale de la subsaharienne. C'est donc très intéressant et nous allons poursuivre nos efforts.
João Lourenço s'est arrêté moins d'une minute avec la presse avant de quitter la Maison Blanche. Il a déclaré que la réunion s'était déroulée mieux qu'il ne l'avait prévu.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Guinée, le slam devient de plus en plus un moyen d'expression pour les jeunes. Entre les coups de cœur et les coups de gueule, chacun y va de ses émotions pour atteindre sa cible. On fait le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Kamara.
Ils sont élèves, étudiants dans leur majorité. Tous rêvent de monter sur les planches pour se faire entendre par le slam.
Enchaînés, humiliés dans les géoles infernales, bâtis sur la terre de nos ancêtres, nos grands-prêtres.
Antoinette Mahoumou, alias Symphonie, se présente comme une criotte des temps modernes.
Il y a des slameurs qui sont engagés, il y a d'autres qui sont beaucoup plus dans ce qui est amour, environnement, humanisme, tout le reste. Mais moi, je m'identifie en tant que slameuse engagée. Et pour moi, c'est un engagement, c'est une responsabilité d'être une criotte moderne et de porter ce que les gens pensent tout bas.
Morluste, un autre slameur, revendique lui aussi un slam engagé.
Le slam constitue pour moi une arme à travers laquelle je m'exprime, je dénonce les maux de la société, je sensibilise les gens, je fais passer des messages. Donc je dirais que pour moi, le slam c'est toute ma vie.
Le slam c'est aussi un moyen de faire de la lecture une habitude. Une pratique que recommande le président du club J'articule, Pierre Milimono.
Le slam, c'est un véritable moyen d'union, de cohésion, mais aussi d'apprentissage. À travers le slam, les jeunes sont obligés d'aller vers les livres, lire et ensuite venir écrire à leur tour, un peu comme les auteurs. Et bien plus, ça aide les jeunes à développer leur capacité à s'exprimer devant un public, à ne pas avoir le trac devant un public et à exprimer ce qu'ils ressentent au fond d'eux. C'est un peu ça l'avantage du slam.
Après une période embryonnaire, le slam guinéen s'est vite organisé pour conquérir l'Afrique et le monde. Théophile Fassamano est le président de la Ligue guinéenne de slam.
De nos jours, il faut dire que le slam occupe une grande place. C'était pas pareil il y a quelques années, mais de nos jours, disons que pour la plupart des jeunes, surtout des élèves et des étudiants, ça occupe une grande place, puisque nos différents ateliers, nos différentes activités, ils sont nombreux et de plus en plus de collectifs naissent. Et donc, si avant il y avait un, deux collectifs, aujourd'hui rien qu'à Conakry, il y a plus d'une quinzaine. Et à l'intérieur, on n'en parle pas.
Avec ces actes racistes, c'est comme si mon cœur s'aplatissait entre le marteau et l'enclume. Je n'en veux pas qu'à ceux qui détruisent l'Afrique, mais surtout à ceux qui les accueillent à bras ouverts.
La Guinée a été championne d'Afrique de slam et de poésie à Addis Abeba en 2022 et vice-championne du monde la même année à Bruxelles. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde de Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayigouya, Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes.